Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloulia, bonjour. Fort du soutien appuyé des alliés des États-Unis, le président américain Joe Biden rencontre ce mercredi à Genève son homologue Vladimir Poutine lors d'un sommet destiné à apaiser les tensions avec la Russie et à dégager quelques rares terrains d'entente. Nous y reviendrons avec Abdelrahman Dia et Jacques Aristide. Cette rencontre se tient à la fin d'une tournée européenne de M. Biden qui a déjà assisté au sommet du G7 en Angleterre et eu des entretiens à Bruxelles avec les dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne. Armistice de 5 ans entre l'Union européenne et les États-Unis pour régler le vieux conflit Airbus-Boeing sur les subventions publiques qui a empoisonné leurs relations, signe tangible d'un apaisement entre les deux blocs après les années Trump. L'actualité africaine maintenant, le groupe Wagner, lié à la Russie, a été accusé de commettre des atrocités de masse contre des civils en République centrafricaine, selon un rapport de l'ONG La Sentinelle, basé aux États-Unis, avec la chaîne CNN, après une enquête de plusieurs mois. Eric Manirakiza nous donnera les détails. En Centrafrique même, le nouveau Premier ministre, Henri-Marie Dondra, a déclaré hier vouloir relancer l'économie avec notamment comme partenaire stratégique la France, qui a récemment gelé son aide budgétaire. Bangui est jugé complice d'une campagne de désinformation massive contre Paris, téléguidée par la Russie. En République démocratique du Congo, la peine de Vital Kamerhe, condamné pour corruption après avoir été le principal allié du président Félix Tshisekedi, a été réduite de 20 à 13 ans de prison mardi en appel, selon son avocat, maître Jean-Marie Kabengela. L'ancien président de l'Assemblée nationale clame son innocence. Ahmed Ekrou, alias Korondi, figure de la société civile au Niger, a été condamné hier à 6 mois de prison, dont 2 fermes, et à 1 million de francs CFA d'amende pour avoir critiqué les gendarmes engagés dans la lutte anti-djihadiste dans la région de Difa, disent des proches. Au Tchad, le gouverneur de la province du Tibesti a annoncé hier que 8 torpailleurs ont été tués dimanche dans le nord du pays, lorsque leur véhicule a sauté sur une mine dissimulée pendant les conflits impliquant dans les années 1980 le Tchad et la Libye. Législative algérienne, victoire du FLN au pouvoir, mais abstention record. Michel Joseph fera le point. En Éthiopie, la famine dans la région en guerre du Tigré est en voie de se propager à d'autres régions du pays, a averti hier un responsable de l'ONU lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, une assertion rejetée par Addis Abeba. En Afrique du Sud, pays du continent le plus touché par le Covid-19, le président Cyril Ramaphosa a renforcé hier soir les mesures de lutte contre le virus, prolongeant le couvre-feu d'1 heure et imposant un contrôle plus strict de la vente d'alcool, face à une 3e vague de la pandémie qui coïncide avec les difficultés du programme de vaccination. De son côté, la Namibie a décrété hier que les rassemblements publics seront désormais limités à 10 personnes afin de tenter de freiner la hausse exponentielle des nouvelles infections au coronavirus dans le pays. Plus de 600 000 personnes sont décédées du COVID-19 ici aux États-Unis depuis le début de la pandémie, un triste seuil franchi au moment où le pays achève peu à peu sa réouverture avec la levée des restrictions dans 2 des États les plus peuplés, New York et la Californie. L'aviation israélienne a ciblé ce matin des positions du Hamas dans la bande de Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers Israël. Premier incident notable entre les deux camps depuis la fin de leur guerre éclair en mai. Sous haute surveillance policière, plus d'un millier de militants nationalistes et de l'extrême droite israélien ont défilé mardi à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé de la ville sainte, sans toutefois mener aux affrontements craints par le gouvernement et une partie de la communauté internationale. La suite de nos informations, machine à piller et à tuer, le groupe Wagner lié à la Russie commet des atrocités de masse contre des civils en Centrafrique. C'est le titre d'un rapport de l'ONG La Sentinelle basée aux États-Unis avec la chaîne CNN après une enquête de plusieurs mois. Le point avec Eric Manirakidza.
La Sentinelle dit avoir obtenu des témoignages et des documents impliquant le groupe Wagner dans une série d'atrocités de masse contre des civils en Centrafrique. Ce rapport détaille les preuves de massacres, d'exécutions extrajudiciaires, de tortures, de pillages et d'enlèvements contre rançon, d'incendies de villages et de viols en masse. L'enquête révèle aussi comment l'armée privée de mercenaires étrangers du groupe Wagner, en alliance avec les forces armées gouvernementales fidèles au président centrafricain Faustin Archange Touadéra, déchaînant cette violence pour contrôler et exploiter à des fins privées des zones riches en or, diamants et minéraux précieux. John Prendergast, cofondateur de l'ONG La Sentinelle, affirmait que des réseaux criminels transnationaux ont capturé des institutions de l'État centrafricain et pris en otage des communautés entières. Selon lui, il s'agit d'une machine à piller et à tuer au service des intérêts du président centrafricain et de ses alliés étrangers, en particulier l'armée privée liée au Kremlin, connue sous le nom de groupe Wagner. John Prendergast recommande des sanctions plus drastiques contre le groupe Wagner. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de réaction officielle des autorités de Bangui ou du groupe Wagner au rapport de l'ONG La Sentinelle.
En Algérie, le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale considéré comme moribond, a quand même remporté les législatives de samedi. Mais le grand vainqueur aura été le taux de participation qui a été extrêmement bas. Le point avec Michel Joseph.
23,03% de participation est un niveau historiquement bas, selon les chiffres provisoires annoncés hier par l'autorité nationale indépendante des élections. Sur plus de 24 millions d'électeurs, elle fait état de 5,6 millions de votants, dont plus d'un million de bulletins nuls. Le mouvement contestataire du Hirak et une partie de l'opposition avaient appelé au boycott. En dépit d'un nombre très élevé de candidats indépendants, l'abstention a été encore plus élevée que lors de la présidentielle de 2019 et du référendum de 2020. Le FLN est en tête avec 105 sièges sur 407 dans la future assemblée, suivi des candidats indépendants avec 78 sièges. La principale formation islamiste, le mouvement de la Société pour la paix, qui avait revendiqué la victoire à l'issue du scrutin, arrive troisième avec 64 sièges, suivi par le RND, allié traditionnel du parti au pouvoir. Cette victoire du FLN est quand même une surprise pour un parti considéré comme moribond et compromis avec le président déchu, Abdelaziz Bouteflika.
Un tête-à-tête très attendu ce mercredi à Genève entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. Le point avec Abdulrahman Dia.
En prélude à cette rencontre, le locataire de la Maison Blanche a adopté un ton ferme ces derniers jours, promettant de dire sans détour quelles sont ses lignes rouges à ne pas franchir. Nous ne cherchons pas le conflit avec la Russie, mais nous répondrons si la Russie continue ses activités, a-t-il prévenu. Les discussions s'annoncent difficiles à cause des nombreux points de discorde dont l'Ukraine, le Bélarus, le sort de l'opposant russe emprisonné Alexei Navalny et la cybercriminalité. La Maison-Blanche a volontairement fixé la barre assez bas. Il ne doit pas y avoir de grandes annonces, mais l'objectif dans la durée est de rendre les relations entre les deux pays plus stables et prévisibles. Après avoir rallié le G7 et l'OTAN, Joe Biden espère avoir un front commun face à la Russie. Quant à Vladimir Poutine, il a profité d'une interview avec la chaîne américaine NBC pour jeter des fleurs à l'ancien président Donald Trump. Joe Biden sera le cinquième président américain qu'il va rencontrer. À la fin de leur rencontre, chaque dirigeant va s'exprimer de son côté, car une conférence de presse commune n'est pas prévue.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Le projet de construction du nouvel aéroport international de Khartoum est relancé. Il avait été suspendu après la chute de l'ancien président soudanais Omar el-Béchi. D'un coût de 1,15 milliard de dollars, le nouvel aéroport de Khartoum sera construit à 40 km au sud de la capitale. Il comprendra deux pistes, un hôtel et un terminal d'une capacité initiale de 6 millions de passagers par an. Cette capacité sera portée à 9 millions dans la deuxième phase et 12 millions dans la troisième. L'Union européenne a réussi à lever 20 milliards d'euros sur les marchés financiers pour commencer à financer le plan de relance européen de près de 700 milliards d'euros destiné à surmonter les conséquences économiques de la pandémie. Les 27 États membres de l'Union européenne avaient achevé fin mai le processus de ratification de la décision les autorisant à s'endetter en commun. Cette étape a permis à la Commission de lancer son opération sur les marchés pour commencer à financer les 672 milliards d'euros de subventions et prêts aux pays membres. Les ménages américains s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat car les prix grimpent. Les ventes au détail ont reculé au mois de mai. Pour la première fois depuis février, le risque posé par l'inflation est d'ailleurs en bonne place de la réunion du comité monétaire de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a débuté mardi matin et s'achèvera mercredi midi. Les banquiers américains vont donner leur dernière projection d'inflation qui sera scrutée par les économistes.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La Sierra Leone a décroché hier à Conakry le dernier ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Bénin 1-0 après un interminable feuilleton avec la pandémie de Covid-19 pour fil conducteur. Les Sierra Leonais se sont imposés grâce à un pénalty transformé à la 19e minute par Keïa Camara. Il chippe au Bénin à la différence de but la deuxième place qualificative du groupe L, loin derrière le Nigeria, à l'issue d'une rencontre reportée à deux reprises à cause du test positif au Covid-19, d'où la déception du coach des écureuils, Michel Dussier.
Oui, des regrets, il y en a toujours, forcément. On se dit que voilà, il nous manquait un point pour passer devant. Voilà. Dans cette poule, ça va être le Nigeria qui a mis en difficulté en considérant deux points à la Sierra Leone. Mais voilà, la vérité du jour, c'est que c'est qu'on ne sera pas au Cameroun. Et c'est une déception qui est énorme.
Michel Dussuyer, coach du Bénin. Par contre, des scènes de liesse ont éclaté au coup de sifflet final dans les rues de la capitale Sierra Leonaise, Freetown. Et parmi les groupes de supporters perdus dans le stade Lassana Conté de Conakry, la capitale guinéenne où le match a été délocalisé et se disputait à huis clos après maintes péripéties, initialement prévues en mars et repoussées à la suite d'un imbroglio au Covid-19, la partie devait se jouer lundi après-midi à Conakry, mais elle a été remise à hier après l'annonce peu avant le coup d'envoi et dans une grande confusion que 6 joueurs de la Sierra Leone et 2 membres de l'encadrement ont été déclarés positifs au Covid-19. Au finish, la Sierra Leone accompagne donc le Nigeria dans le groupe L pour la CAN qui va se jouer au Cameroun en janvier et février 2022. Des nouvelles de l'Euro, le groupe F a bouclé hier les premières sorties dans cette compétition. Il était attendu pour l'histoire, il a répondu présent. Cristiano Ronaldo est désormais seul au panthéon des buteurs de l'Euro avec un doublé inaugural contre la Hongrie battu 3-0. La superstar du Portugal est devenue l'unique meilleur buteur de l'histoire du tournoi avec 11 réalisations, laissant derrière lui Michel Platini et ses 9 buts. Titulaire hier, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à disputer 5 euros différents, le gardien espagnol Iker Casillas ayant été retenu pour 5 tournois sans forcément jouer. Dans le second match du groupe F, la France a triomphé de l'Allemagne 1-0 à Munich, à l'Allianz Arena, la première grande affiche entre favoris du tournoi, a tourné en faveur des champions du monde 2018 au détriment de leurs prédécesseurs de 2014. Il a suffi d'un but contre son camp de Mats Hummels à la 21e minute après une inspiration de Paul Pogba et un centre de Lucas Hernandez pour donner l'avantage aux Bleus qui l'ont maintenu jusqu'à la fin du match.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Blanchi par la justice internationale des charges qui pesaient contre lui, L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo fait son retour demain en milieu d'après-midi en Côte d'Ivoire. Un retour longtemps attendu par ses partisans dans les quartiers réputés être des bastions de l'ancien chef d'État ivoirien. L'arrivée du leader du Front populaire ivoirien est perçue par ses supporters comme la pièce qui manquait au processus de réconciliation. D'Abidjan, le reportage de Cyril Kibaro.
Dans les rues de Yopougon, quartier au nord d'Abidjan, l'espoir que suscite l'arrivée de Laurent Gbagbo est perceptible. Gisèle Alamba réside dans ce quartier, acquis à la cause de l'ex-président ivoirien. Elle est heureuse et envisage désormais la paix entre Ivoiriens.
Que Gbagbo rentre, c'est vraiment un bonheur. Pour nous, comme c'est un fils du pays, on veut qu'il rentre. Parce qu'on ne peut pas parler de paix pendant que d'autres sont en exil, d'autres sont en prison, tout ça. Voilà, quand il va rentrer, tout va rentrer en notre.
Laurent Gbagbo reste un acteur important pour l'aboutissement du processus de réconciliation nationale. C'est ce que pense M. Teki, un riverain de Yopougon.
Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas unis, mais je pense bien arriver ce monsieur-là. Ça va quand même essayer d'unir les Ivoiriens. Ça va évoluer un peu le pays, parce que actuellement, là, ça ne va pas trop. Tout le monde sait que ça ne va pas, mais avec ça, ça va aller.
À Abobo, autre commune d'Abidjan, favorable au président Alassane Ouattara, l'acquittement et la venue de Laurent Gbagbo ne sont pas perçus d'un bon œil. Il y a quelques semaines, un collectif de victimes de la crise post-électorale de 2011 a fait entendre sa voix. Ce collectif réclamait notamment la mise aux arrêts de Laurent Gbagbo dès son arrivée en Côte d'Ivoire. Tout porte à croire, pour le moment, que le président Alassane Ouattara joue la carte de l'apaisement. Pour le retour de Laurent Gbagbo, il a mis à sa disposition le pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cyric Barreau, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
À l'occasion de la journée de l'enfant africain, nous marquons un arrêt au Cameroun pour évaluer l'accès à l'éducation dans les villages miniers, notamment dans la région de l'Est où l'activité aurifère a engendré la déperdition scolaire et la sous-scolarisation. Parents, autorités traditionnelles et responsables d'écoles sont aux abois. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Dans un silence studieux, seuls 10 élèves de l'école publique d'un village Mali, dans la commune de Bétaro-Eya, à l'est du Cameroun, affrontent les épreuves de l'examen blanc du certificat d'études primaires. Ce jour-là, 7 candidats manquent à l'appel. Le village Mali est le fief de l'exploitation de l'or dans cette région.
L'enfant a pas 7 ans, même l'enfant connaît déjà le travail de l'or, parce que tout le temps, il est dans les trous.
Antoine Adamou, directeur de l'école publique du village Mali.
Malgré la sensibilité des autorités. Comme la force de l'ordre a été interpellée, on a demandé à ce qu'on interdise aux enfants d'entrer dans les trous les jours ouvrables, mais c'est en vain.
Sur l'effectif de 100 élèves de cours élémentaires 1 et 2, seuls 8 sont présents dans les salles de classe en début juin. L'école a été envahie par les élèves. La plupart des 346 élèves inscrits en début d'année scolaire ont déserté l'établissement. Hermine Zarmo, parent d'élèves.
Nous sommes fatigués pour parler. Tu tapes même, ils ne comprennent pas. Comme ils ont déjà l'argent, tu leur reçois la nourriture, ils sont capables de payer leur nourriture pour manger au restaurant.
Au village Borongo, situé à 20 km de la Centrafrique, dans l'est du Cameroun, la déperdition scolaire inquiète également le directeur de l'école publique, Dieudonné Kabo.
Je suis ici depuis 2017. Mes deux premières années où il n'y avait pas la découverte d'or, les élèves étaient présents jusqu'en fin d'année. Mais depuis 2 ans qu'on parle de Kakou Saint-Chesnois qui se trouve dans les environs de ce village, les enfants sont attirés par d'aller chercher l'or.
Les sommes que ces enfants en âge de scolarisation gagnent dans les chantiers miniers sont loin d'être dérisoires. Abien Angui habite à Batoum, une autre localité dans l'est du Cameroun.
Depuis que les Chinois sont venus, même un petit de 10 ans va vous sortir 200 000 ici. Et quand il retrouve les 200 000 comme ça, il se dit qu'il a déjà trouvé sa vie au chantier.
Sur les chantiers miniers, aucun de ces enfants ne souhaite s'exprimer sur le phénomène de déperdition scolaire. Les autorités mettent désormais les médias à contribution pour sensibiliser en 3 langues locales contre l'abandon scolaire dans les villages miniers, comme sur les ondes de la radio communautaire de Batouri. Mourane Oumarou, chef de chaîne de la radio communautaire de Batouri.
Il y a ces problèmes d'éducation qui est un manque criard pour ces jeunes enfants-là. Mais il y a aussi des incidents qui sont souvent, on va dire, orchestrés dans ces secteurs. Il y a des éboulements, il y a des noyades. C'est tout cela que nous essayons à notre niveau. De le dire.
La région de l'Est figure parmi les 4 régions où le pourcentage d'enfants non scolarisés est important, soit 13,3%. La situation est plus prononcée en milieu rural qu'en milieu urbain. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, un groupe appelé AfriForum a lancé une formation à l'autodéfense pour les agriculteurs commerciaux blancs. Le groupe affirme que ces agriculteurs sont vulnérables aux attaques motivées par les tensions liées à la répartition inégale des terres agricoles plus de 25 ans après la fin de l'apartheid. De Pretoria, reportage de Franco Puglisi, récit d'Eric Manirakiza.
Jeune mère célibataire, Charlie Sportivitaire, agricultrice sud-africaine, vivait depuis 8 ans dans une ferme rurale isolée avec sa fille Denise et ses deux chiens. Cette vie paisible a volé en éclats un matin d'été lorsqu'elle est rentrée chez elle après avoir déposé sa fille à l'école. Deux hommes sont sortis du champ de maïs, l'ont attaché et ont saccagé sa ferme. Madame Potguiter se souvient de l'horreur.
This is the passage where they made me lie down. I had to lie here so that I couldn't see outside.
C'est ici où ils m'ont fait m'allonger pour ne pas voir l'extérieur. Quand ça a commencé, je me suis dit, aujourd'hui, je vais perdre ma vie. Quand je les ai vus venir vers moi, ma première réaction a été de me dire, aujourd'hui, je vais mourir. Je m'inquiétais pour ma fille et pour ce qui allait lui arriver si quelque chose m'était arrivé.
Si Potguiter a survécu, AfriForum, un groupe de défense des droits des Afrikaners, affirme que 59 fermiers blancs ont été tués rien qu'en 2020, soit une augmentation de 30% par rapport à 2019. AfriForum affirme que la plupart des auteurs sont noirs. En janvier, le groupe a lancé un programme d'autodéfense pour les agriculteurs commerciaux, dont la majorité sont des Afrikaners blancs. Le responsable juridique et des risques d'AfriForum, Marnas Kemfer, donne un aperçu de la formation.
Le premier aspect de la formation sera l'utilisation d'une arme à feu. Nous leur avons montré comment utiliser cette arme à feu à l'intérieur et autour de la maison. Nous leur avons également remis une radio numérique et leur avons enseigné comment l'utiliser. Au final, nous voulons que tous ces agriculteurs et leurs voisins disposent d'un réseau de communication efficace.
Les tensions sont montées d'un cran en octobre 2020. Un fermier blanc a été tué, son corps a été retrouvé attaché à un poteau dans la ville de Sénécal, dans l'est de la province de l'État libre. L'incident a ravivé les tensions raciales dans la région et des manifestations à caractère politique ont suivi. Selon les observateurs, la colère raciale est alimentée par le fait que les fermiers blancs possède toujours 70% des fermes commerciales d'Afrique du Sud, 27 ans après la fin de l'apartheid. Les groupes représentant les agriculteurs blancs, comme la Transvaal Agricultural Union South Africa, accusent les autorités de ne pas les protéger. Les agriculteurs noirs ont également été victimes d'attaques, mais dans une moindre mesure, selon le syndicat agricole. Chris Van Zyl, président du syndicat du Transvaal, souligne la nécessité pour les agriculteurs de se défendre contre ces actes criminels.
Nous ne pouvons pas attendre de la police qu'elle assure une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les zones où sévissent des criminels violents. Les habitants doivent s'organiser et être formés pour pouvoir résister à une attaque violente et criminelle.
La police nationale d'Afrique du Sud a décliné plusieurs demandes d'interview, mais indique que 49 fermiers blancs ont été tués entre avril 2019 et avril 2020. C'est sur plus de 21 000 meurtres à l'échelle nationale où la majorité des victimes sont noires. L'année dernière, Le président Cyril Ramaphosa a exhorté les Sud-Africains à ne pas rallier les communautés selon des critères raciaux. En mars, le parti d'extrême gauche, les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, a accusé à plus forum d'être raciste pour s'être opposé à l'expropriation de terres agricoles de sa compensation. A Free Forum affirme qu'il tend la main à tous ceux qui ont besoin de conseils et d'aide, quelle que soit leur race.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, la première visite chargée de Joe Biden à l'étranger depuis sa prise de fonction. Après avoir pris part à une rencontre du G7, le locataire de la Maison Blanche a participé au sommet de l'OTAN avant son face-à-face avec le président russe Vladimir Poutine. Pour l'administration Biden, ce voyage marque le retour de Washington dans son rôle de leadership mondial et une manière de réparer ses relations avec ses alliés traditionnels. De l'Amérique sous Biden et le reste du monde, ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se rencontrent à Genève aujourd'hui. Il s'agit du premier sommet entre les deux hommes depuis l'accession de M. Biden à la Maison-Blanche. Comme le rapporte de Moscou Charles Mains, les deux dirigeants sont appelés à voir comment normaliser les relations de plus en plus tendues entre leurs deux pays. Le récit est signé Jacques Aristide.
Au cours de ses deux décennies au pouvoir, le président russe Vladimir Poutine a vu au moins cinq de ses homologues américains, démocrates et républicains, promettre de rétablir les liens avec son pays, pour finir souvent par voir les griefs s'accumuler. Pavel Charikov est de l'Institut américano-canadien.
L'ordre du jour est tellement complexe, tellement surchargé, tant de problèmes à régler. Alors je pense que le dialogue est nécessaire, ne serait-ce que pour le dialogue lui-même.
Dernier effort en date du président Biden, il dit vouloir des relations américano-russes stables et prévisibles. Une main tendue après que le dirigeant américain a qualifié Poutine de tueur en mars dernier, ce qui a provoqué l'indignation à Moscou. Au même moment, le Kremlin déployait des dizaines de milliers de soldats russes le long de la frontière ukrainienne. Ces événements prouvent que Poutine ne peut pas être ignoré par Biden, d'après Kirill Rogov, analyste politique.
Pourquoi rencontrer un tueur ? Vous rencontrez des dirigeants que vous n'avez pas d'autre choix que de rencontrer pour des raisons de sécurité mondiale. Poutine se réjouit donc d'avoir remporté cette manche et obtenu une réunion.
Poutine espère que le sommet aide à normaliser les relations.
Nous discuterons des relations bilatérales. Je pense que nous devrions essayer de trouver un moyen de résoudre les contentieux. Pour le moment, les relations sont à un niveau extrêmement bas.
Derrière l'animosité, la colère américaine face à l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016, qui a conduit à des sanctions et à des expulsions diplomatiques du tac au tac. Sans oublier non plus les accusations de Washington, selon lesquelles Moscou serait à l'origine des récentes cyberattaques contre les infrastructures américaines, ce que la Russie nie également. Le Kremlin soutient que ce sont en fait les États-Unis qui interfèrent, une accusation utilisée pour justifier la répression du mécontentement grandissant en Russie, de même que les soulèvements pro-occidentaux dans les États voisins comme en Biélorussie. Ivan Kourila, de l'Université européenne de Saint-Pétersbourg.
Je crois comprendre que oui, Poutine a besoin de l'Amérique comme ennemi à des fins nationales, mais en même temps, il a besoin de l'Amérique comme partenaire.
En effet, les deux parties peuvent surmonter leurs divergences lorsqu'il s'agit de problèmes à caractère global, tels que le contrôle des armements, avec le prolongement du traité New Start dans les premiers jours de l'administration Biden. Et à moins d'un pacte surprise, beaucoup sont d'avis qu'un éventuel accord pour le retour des diplomates expulsés peut constituer un moyen possible de poursuivre les pourparlers au-delà de Genève.
Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sejulia et de Michel Joseph à la mise en monde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.